Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui font la mode. Qu'ils soient créateurs, entrepreneurs, institutionnels ou influenceurs, je les interviewe pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Gauthier Borsarello. Il est le fondateur de Gauthier Borsarello Showroom, une collection de vêtements vintage construite depuis de nombreuses années à disposition et à destination des professionnels de la mode. Il est également le style directeur de Holiday Boileau, la marque de vêtements du projet Holiday du fameux Franck Durand. Il est créatif directeur de la marque de vêtements Kidur et il est le cofondateur avec Marc Bauger du magazine lancé le 18 octobre dernier, L'Étiquette. Dans cet épisode, on revient sur son parcours atypique, on parle de chacun de ses projets, de sa vision de la mode, de comment il jongle entre toutes ses activités et de beaucoup d'autres sujets. J'ai adoré interviewer Gauthier, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode, je suis aujourd'hui avec Gauthier Borsarello. Bonjour Gauthier.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Alors, je m'appelle Gauthier, je viens d'avoir 30 ans, je suis boulonnais, j'ai grandi en région parisienne, en banlieue sud, voilà. J'ai un parcours un peu atypique et je crois que c'est ça qui nous intéresse.
La deuxième question, c'est ça, c'est est-ce que tu peux reprendre ton parcours depuis tes études supérieures ou enfin après ton bac, quoi, et tu nous racontes même un peu ton enfance, si tu veux.
Hein. Un peu mon enfance, mais j'ai une enfance très douce. Dans une grande maison en banlieue avec 5 frères et sœurs et une enfance très agréable, très calme. Donc rien de particulier à mentionner là-dessus. Et dès la 6e, j'étais en école spécialisée dans le 8e, une école à mi-temps, le matin études et l'après-midi musique classique. Donc
d'accord.
C'était ça, ma collège et lycée. Collège Octave Briard et au Conservatoire National de Région. Et après le bac, du coup, je suis parti au CNSM de Lyon, donc au Conservatoire de Lyon, parce qu'il y avait un professeur que j'aimais beaucoup qui était là-bas, de contrebasse. Et je suis rentré à l'âge de 19 ans au Conservatoire à Lyon. Voilà, donc ça, c'est mes études supérieures, c'est le Conservatoire. Et après un master, je suis parti à Vienne pour faire un an là-bas, un an d'Erasmus. Donc j'ai fait la contrebasse à Vienne pendant un an. Et ensuite, j'ai eu mon premier job qui est presque une erreur, enfin qui n'était pas une erreur, mais mon professeur m'a dit « Bon, tu finis tes études, fais un test dans les concours d'orchestre. » En France, les orchestres sont nationaux. Je sais pas si ça t'intéresse cette partie-là.
Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est ça ressemble à quoi tes journées quand t'es au conservatoire à Lyon et à Vienne?
Alors, ça dépend des gens. Il y en a qui bossent 8 heures par jour. Moi, je bossais mon baby-foot 8 heures par jour et ma contrebasse 1h30.
Okay.
Donc, ça dépend complètement de ton niveau d'exigence, de tes compétences, enfin, moi, j'avais besoin d'être dans l'urgence pour travailler. Donc, je travaillais beaucoup juste avant les concours, mais mon quotidien était assez doux. Et j'avais des copains qui étaient un peu comme moi, dont mon meilleur ami Jonathan, qui est aujourd'hui à l'Orchestre de Paris et qui était sur le même rythme que moi. Donc, on faisait ça ensemble. Et c'était très, très sympa. C'était très.
Donc, c'est beaucoup de baby et
beaucoup
de musique.
Beaucoup de cantines, beaucoup de filles, beaucoup de soirées. Et un peu de musique classique quand même, évidemment. Et c'était quand même beaucoup, par rapport à la moyenne, mais c'est juste que j'étais pas le plus assidu en termes de travail sur l'instrument. Mais écoute, ça m'a plutôt réussi, j'ai toujours gagné mes concours, et dont ce premier concours à Toulouse qui était surprenant parce que j'étais censé aller me tester et j'ai été embauché tout de suite. Donc j'ai eu mon premier job à l'Orchestre National du Capitole de Toulouse où j'étais contrebassiste. Et c'est ma première expérience musicale professionnelle un peu tôt. J'avais 22 ou 23 ans, je sais plus exactement.
Et là, c'est pareil, c'est beaucoup de baby-foot et un peu de musique
sérieux. C'est très peu de travail finalement, parce que c'est des jobs qui sont extrêmement difficiles à avoir. C'est des jobs que tu as toute ta vie, c'est très protégé par l'État, ce qui est très bien en France, et c'est un des seuls États au monde à avoir ça. C'est-à-dire que tu es payé par l'État, c'est des orchestres nationaux, c'est très sécurisé. Tu es assimilé fonctionnaire, Et c'est presque ça qui m'a déplu en fait, c'est qu'au bout d'un moment, tu rentres dans une routine très rapidement. Tu travailles que 3-4 jours par semaine maximum, tu fais beaucoup de tournées dans le monde, donc sur le papier c'est génial, t'es très bien payé, t'es très sécurisé, c'est voilà. Mais il y a un plafond de verre qui fait qu'il y a plus de progression, c'est-à-dire que c'est vraiment, tu peux pas aller beaucoup plus haut que ça.
Les next steps?
Il y en a pas. C'est un autre orchestre.
Non, après t'es recruté dans un autre orchestre où tu pars aux États-Unis.
Le problème c'est que moi j'étais dans un instrument spécifique qui est la contrebasse, où il y a une école française de la contrebasse, donc une façon de tenir l'archet, qui fait que c'était très peu exportable. Donc à part les Italiens, le Canada, quelques orchestres américains, la façon dont je jouais de mon instrument faisait que j'étais très difficilement exportable à l'étranger. Par exemple, tous les meilleurs orchestres d'Europe sont en Allemagne, en Autriche et à Amsterdam. Et en fait, je pouvais pas aller là-bas parce que je tenais pas mon archet d'une certaine façon. Bon, c'est un peu technique.
Ouais, c'est un peu technique.
Mais ça fait que je pouvais pas m'exporter. Donc, l'orchestre d'après, c'était le seul, le mieux au-dessus, c'était l'orchestre de Paris. Mmh. Et donc, quand j'ai démissionné l'orchestre de Toulouse, qui a fait beaucoup de foin dans mon milieu, l'orchestre de Paris m'a appelé, m'a dit, viens passer un an avec nous. Il nous manque quelqu'un, viens passer un an. Donc, j'étais pas titulaire, mais j'ai passé un an complet avec eux. Et au bout de cette année, je me suis dit, c'est vraiment pas pour moi, c'est vraiment pas ma vie. Et j'ai eu la chance de jouer à ce niveau-là, dans les plus grandes salles d'Europe, avec des musiciens extraordinaires. Mais je me suis dit, c'est pas pour moi. Donc, j'ai arrêté ça. Mmh. Et je suis parti suivre ma passion première, qui sont les anciens objets, les vieux objets, la fabrication, que ce soit dans le textile, dans le mobilier, dans les montres, dans tout ça. Et donc, j'ai fait l'ICAR en dernière année. Donc, j'ai fait une passerelle parce que j'avais un master.
Ouais.
Je suis rentré tout de suite en troisième année à l'ICAR, qui est une école de commerce de l'art,
ouais,
que je recommande pas particulièrement,
ouais,
mais bon, qui existe. Voilà. Donc, j'ai fait ça et j'ai fait mon stage chez Tajan, qui est une maison de vente aux enchères.
Ouais.
T'as Jean rue des Mathurins et pendant mon stage ils m'ont dit on va te débaucher, enfin finis pas tes études, tu vas créer un département qui va être le département des instruments de musique. Donc je fais ça, je fais une vente et je me rends compte de l'ampleur du travail, qui est colossal dans ces milieux-là. Il y a très peu d'argent finalement pour les gens qui travaillent là-dedans.
Ouais.
Et si t'es pas commissaire-priseur, bah finalement il y a pas grand-chose à faire en termes de développement personnel là-dedans.
Ouais.
Et donc j'ai décidé d'arrêter et c'est le moment, j'ai l'impression quand je raconte ma vie, j'ai l'impression que c'est que des arrêts, mais à chaque fois c'est que j'allais vers quelque chose qui me passionnait plus. Et donc là, j'étais client chez Ralph Lauren, boulevard Saint-Germain, au dernier étage, j'ai un étage spécialisé dans le vintage.
Oui, je vois. Ouais.
Et j'étais déjà collectionneur de vêtements anciens, j'étais client chez eux, je les connaissais bien, et le manager me dit écoute, on a un employé qui s'en va 3 mois. Donc on a un trou, il nous manque un salarié, si tu veux viens. Donc là, je prends à nouveau un risque, je quitte encore un CDI. Et je rentre dans cette espèce de micro CDD où je sais que dans 3 mois, j'ai plus de job, j'ai plus rien. Et en fait, pendant ces 3 mois, ça se passe super bien.
Mais qu'est-ce qui te fait prendre la décision là?
Qu'est-ce qui me fait prendre cette décision? Ma femme qui me dit t'es fait pour ça, t'adores le vêtement ancien, vas-y.
Ouais.
Et je dis mais je suis fait pour ça comme des milliers de mecs qui collectionnent le vêtement vintage, qui adorent ça. Et je me sentais pas plus légitime qu'un autre. Mais je prends le risque parce que j'aime vraiment ça. Et que mon pote manager me dit tu vas être bien payé, ça va être bien, donc j'y vais. Et au bout des 3 mois, la fille, aujourd'hui, c'est une femme, à l'époque, c'était une fille que je remplaçais, revient des États-Unis au bout de ces 3 mois de stage et reprend normalement sa place.
Et toi, tu pars? Non.
Bah, et du coup, moi, je veux pas partir. Elle veut revenir. Eux veulent me garder, mais elle était obligée de revenir. Mm-hmm. Donc voilà. Et ils me trouvent une place au Polo, donc la gamme Polo que tout le monde connaît avec le logo, là, au 3e étage. Et je prends ça comme une claque dans la gueule. Et en même temps, c'est ça qui m'a strictement tout appris.
Ouais.
C'est-à-dire que j'apprends ce que c'est vraiment travailler dans la mode de en bas. C'est-à-dire passer des dimanches entiers à plier des polos dans un stock, servir les gens, des clientèles extrêmement différentes. Et là, j'apprends le vrai métier de la mode. Et là, j'apprends que je me suis jamais autant amusé toute ma vie. C'est-à-dire que je bosse 2 fois plus que quand j'étais musicien. Je gagne 2 fois moins. Mais par contre, je suis heureux tous les matins de me saper, de travailler dans ce milieu-là, vendre des trucs, apprendre. Dès qu'il y a une nouvelle collection qui arrive, déballer les cartons, j'ai la boule au ventre tellement je suis heureux. Donc, pour la première fois de ma vie, je suis ultra heureux dans ce que je fais. Donc ça, c'est génial. La fille du dessus finit par partir. Du 4e étage, finit par partir et du coup je remonte là-haut et là c'est carrément le paradis absolu. Je travaille avec un pote Alex qui est absolument génial et on a passé des années formidables à vendre de marchandises à des grands acteurs, à des musiciens, à des passionnés, la clientèle WRL est extraordinaire. Donc j'ai adoré travailler pour ça.
Bien sûr.
Et là j'ai vraiment appris beaucoup de choses. C'est-à-dire ce que le client final veut.
Ouais.
Le produit que moi me faisait rêver en tant que collectionneur, je me rends compte que finalement il plaît pas du tout à la population. Donc en fait, ça m'apprend à doser mon œil pour entre ce qui est pointu, extrêmement bien fabriqué, une pièce extraordinaire, mais en fait, qui est pas du tout commercial. Donc quel est le but quand même finalement, c'est d'habiller les gens, de les rendre beaux et de les rendre heureux et qu'ils vivent dans leurs vêtements. Donc ça m'a vachement rabaissé mon caquet entre guillemets de collectionneur qui veut la pièce la plus rare, la plus folle, la plus machin. Finalement, ça m'a pris à rationaliser mon œil et à me dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit vendeur. Et vendeur pas dans le mauvais sens du terme, pas dans le sens putassier, mais dans le sens rationnel. C'est-à-dire le bon équilibre entre la bonne fabrication, le bon tissu et finalement le bon prix et la pièce qui sort. Et c'est là que tu te rends compte que tout le monde porte les mêmes choses, c'est-à-dire un t-shirt blanc, une chemise en chambray, une chemise en denim, un chino et une paire de Alden. Mais finalement, même le plus pointu des plus pointus à la fin, il est pas excentrique et il est assez rationnel. Même quand il paye des pièces très chères excentriques, il la porte très peu. Il s'en lasse vite, il se retrouve vite chez Vestiaire Collective, Vinted ou ce genre de trucs-là. Ce dont on parlait tout à l'heure pour ton Brunton. Donc faut faire attention à comment on consomme, être un peu rationnel, pas trop consommer de la seconde main à mon avis.
Okay.
Et rationaliser sa façon de consommer est hyper importante.
Mmh. Donc là, tu restes combien de temps chez
chez Ralph Lauren? Je suis nul en date, mais je crois que j'ai dû rester 4 ou 5 ans en tout, ouais, entre Polo, Double RL, tout ça, ça a duré entre 4
et 5
ans.
D'accord, donc c'était quand même une belle école, enfin, c'était assez long.
J'ai adoré, hein, j'ai adoré. École, ouais. 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 Et rétrospectivement, je suis hyper heureux d'avoir commencé par là dans la mode, c'est-à-dire à voir le client final, à bouffer du stock, à plier des vêtements toute la journée, à faire en sorte que le floor soit nickel matin et soir. Mmh. C'est une école de l'exigence, Ralph Lauren, sous prétendu d'être cool, en fait, c'est, enfin, sous une couverture de cool, le lifestyle et tout ça, il y a une exigence de maison de luxe qui est ultra raide et rude et qui était vachement bien pour moi. En termes structurels, par contre, c'était pas mon truc parce que du coup, c'est vraiment très américain, donc on me promet beaucoup de choses qui n'arrivent jamais. Moi, on m'a embauché pour être vintage spécialiste et faire les achats vintage, donc c'était ça sur ma carte de visite, mais en réalité, ça arrivait une fois par an pendant 2 jours à Londres, donc c'était pas aussi fantasmagorique que prévu. Ouais. Et du coup, j'allais à Londres avec Doug Bilmayer, qui est une légende dans notre métier du vintage, qui est l'acheteur de Ralph depuis 40 ans. Et j'allais avec lui à Londres et on achetait du vintage au Vintage Showroom chez Cassie Mercantile, sur les marchés, etc. Donc là, j'ai fait mon réseau dans le vintage et je me suis fait des bottes.
2 jours par an, ça t'a suffi?
Ouais, parce que j'ai une facilité humaine, je crois, à tisser des liens vite avec les gens avec qui je rentre en interaction et où je sais que ça peut, et que ce soit un boulanger ou quelqu'un du métier d'ailleurs, hein, mais c'est juste que j'aime beaucoup l'humain. Et du coup, j'ai tissé des liens très rapidement, surtout avec Cassie Mercantile, donc Graham, et Graham c'est son prénom, et Doug et Roy au Vintage Showroom.
Bon, on mettra les liens pour nos auditeurs, parce que c'est quand même assez pointu.
Ouais, bien sûr, c'est très pointu, surtout du B2B. Ouais. C'est des gens qui travaillent que pour les professionnels. Ouais. À part le Vintage Showroom, qui est une boutique à Londres, qui est vachement bien d'ailleurs. Mais voilà, j'ai tissé des liens avec ces gens-là. Ils m'ont dit que tu devrais, si t'es plus heureux chez Ralph, tu devrais faire ton showroom à Paris, parce qu'il y a personne qui fait ça de cette façon-là, comme on le fait à Londres. Et ils m'ont aidé au départ, ils m'ont fourni des pièces, ils m'ont donné des conseils, ils m'ont donné des façons de travailler.
Donc là, tu es chez Ralph Lauren.
Je suis chez Ralph Lauren.
Et t'as le déclic?
Non, pas encore. Alors, j'ai le déclic de vouloir faire quelque chose, de vouloir faire ça, mais je me rends compte que parce que quand j'étais musicien, j'avais acheté un appartement, j'avais des frais fixes qui étaient un petit peu lourds, et du coup, je pouvais pas partir comme ça. Et Ralph Lauren me faisait gagner très très bien ma vie, parce que je vendais beaucoup et qu'on était commissionnés. Et du coup, on avait des commissions, j'avais ma clientèle, j'étais des clients très fidèles que je recroise d'ailleurs aujourd'hui dans mon métier, ce qui est assez rigolo, parce que du coup, je travaille maintenant avec eux, alors comment j'étais leur vendeur. Ouais. Et hier, et du coup, Gilles Lelouch, dès la première minute, il me dit, mais je te connais, toi. Et du coup, je dis, je te vendais des jeans chez Ralph Lauren. Ouais. Donc, c'était assez rigolo. Et j'ai vachement de plaisir, justement, et je suis hyper fier de cette expérience. C'est pas pour faire le mec, je suis content d'être parti d'en bas, c'est pas ça. Parce que je considère pas que c'est en bas, d'ailleurs. Et je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour rester dans ce métier-là. Et je considère qu'en France, c'est trop dévalué, le métier de vendeur, de serveur, enfin, de fait, de service. Aux États-Unis, si t'es bon dans ce domaine-là, on t'augmente. En France, si t'es bon, on te fait on te fait changer de métier, enfin on te fait passer manager. On attend que tu sois nul dans ton job. C'est-à-dire que si t'es bon vendeur en France, on te fait passer manager. Une fois que t'es manager, t'es directeur. On attend que tu sois nul pour plus évoluer. Alors qu'aux États-Unis, on considère que si t'es bon dans le service, on va te pousser à rester dans le service, c'est-à-dire à avoir un meilleur salaire, des meilleures vacances, etc. Mais on dévalue pas ce job en te faisant croire que tu vas monter. Ouais. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire,
mais je comprends.
Mais je trouve ça dommage qu'en France on estime pas plus le métier de service. Donc bref, j'étais très bien payé, j'étais très content d'être là, mais il y a Ramdan Touami qui est
passé dans le podcast.
Qui est passé dans le podcast, ouais. Okay. Ramdan que j'embrasse si t'écoutes ça, je sais pas si t'as le temps, mais voilà. Ramdan qui a été un mentor, qui est très critiqué, qui est très pas critiqué, c'est pas le terme, mais qui est controversé, disons, dans ses façons de faire, etc. Et moi, dès qu'on me pose la question sur lui, je dis que c'est un grand génie. Que c'est pas facile de vivre à côté de génies. Je pense que tous les génies qu'on adule aujourd'hui, si on avait dû passer des vacances avec eux, ça aurait peut-être pas été si simple que ça. Et je pense que Ramdan, dans quelques temps, on va se rendre compte de la chance qu'on a de l'avoir en France, même s'il n'est pas tout le temps en France, loin de là. Mais c'est quelqu'un qui est important dans notre métier, enfin dans notre vie culturelle. C'est quelqu'un qui propose des choses, qui est extrémiste, qui aime le produit et qui est extrémiste en tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui met tout le monde au même niveau. Et ça, je le dis tout le temps, il va parler à l'éboueur, au boulanger, au grand galeriste ou au président de la même façon. C'est-à-dire que si vous êtes une merde, il va vous le dire. Et si vous êtes bon, il va vous le dire où que vous soyez. Et ça gêne des gens parce qu'en France, il faut respecter le rang, etc.
Ouais, parce qu'il n'a pas de filtre, en fait.
Il n'a aucun filtre. Ouais. Il n'a aucun filtre. Par contre, il a une vision. Il a un goût extraordinaire. C'est peut-être un des mecs les mieux sapés de Paris. Alors évidemment, ce n'est pas un blogueur, donc il ne se prend pas dans le miroir toute la journée. Mais c'est un mec qui aime le vêtement pour lui et pas pour les autres. Et il est capable d'aller chercher des chaussures orthopédiques en Allemagne fabriquées à la main comme depuis un siècle et demi, et il s'en fout que ça se voit pas, et lui il le sait. Donc voilà.
Donc là tu le rencontres dans quel contexte?
Je le rencontre parce que j'étais vendeur et je l'ai croisé plusieurs fois, et je crois qu'il a aimé ma façon de faire et tout ça. Et il rencontre un pote qui s'appelle Nigel Cabourne, enfin un ancien pote qui s'appelle Nigel Cabourne à Tokyo qui lui parle de moi. Il rencontre un autre pote à Tokyo qui s'appelle Stéphane Muller qui lui parle de moi. Et je dis bon, il me faut ce petit gars. Et du coup, il rentre à Paris. Il m'appelle et il me dit ouais, c'est Ramdan, je te débauche. Tu commences chez moi bientôt, etc. Je dis bah non, je suis trop bien chez Ralph Lauren. Il me dit non, mais rencontrons-nous, il faut que tu bosses pour moi. Et il me propose de travailler pour Bully. Et il me propose un job de, je sais plus quoi, directeur commercial ou je sais plus exactement. Et c'était pour développer les distributeurs de savon ouais. qu'il y a dans tous les restaurants là, voilà. Et en fait, on se rend compte que, moi, je me rends compte que je pourrais pas travailler pour lui très longtemps en termes humains pour toutes les qualités qu'il a, certes, mais qui ont un poids dans le quotidien, mais qui sont nécessaires pour faire des projets aussi forts qu'il fait.
Aussi ambitieux.
Si tu veux dire que s'il n'était pas comme ça, les projets seraient pas aussi beaux. Ouais. Et voilà. Donc, mais moi, je suis beaucoup trop sensible. Pour vivre à côté d'une boule de charisme comme ça au quotidien et tout ce que ça implique dans la gestion humaine du quotidien. Et du coup, voilà, je lui dis, écoute, je préfère qu'on se sépare. Et surtout, entre-temps, j'avais rencontré Franck Durand, directeur artistique.
Ouais.
On s'était rencontré dans mon petit showroom du 11e que j'ai tenu en fait depuis quelques temps. Si on revient en arrière, au moment de quitter Ralph Lauren, j'avais déjà un petit showroom dans le 11e.
D'accord. En parallèle, j'avais un petit showroom.
Exactement. Où je stockais ma collection, où j'avais déjà des clients comme Supreme, comme Officine Générale, comme Lacoste. Enfin, j'avais déjà quelques clients comme ça. Ouais. Qui venait consulter la collection, me louer ou m'acheter des pièces.
Mais ça, c'était une collection que tu t'étais faite au fur et à mesure de toute ta vie.
Exactement. Depuis que j'avais 10-11 ans. Bon, après, évidemment, ce que j'avais il y a 10-11 ans, je ne l'ai plus depuis très longtemps, mais cet œil, je l'avais développé depuis très longtemps, en me trompant énormément et en passant par plein de phases différentes. Mais ça a commencé à se stabiliser quand j'étais à Lyon, vers 19-20 ans. Quoi. Là, j'ai commencé à regarder un petit peu plus sérieusement les choses. Et donc voilà, j'avais ce petit showroom et j'ai rencontré Franck Durand dans ce showroom. J'avais déjà Instagram où je montrais mes pièces, etc.
D'accord.
On avait des amis communs avec Franck et on s'est rencontrés. Et il avait déjà ce café, Holiday Café où on est maintenant. Ouais. Et du coup, bah, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Donc je lui explique. Et au bout d'un moment, il me dit, bah, écoute, moi, j'ai un quartier que j'ai vraiment développé. Pourquoi t'es pas dans ce quartier-là? Je dis, bah, en plus, moi, j'habite à Boulogne à côté, blablabla. Et du coup, il me dit, bah, viens dans le quartier. On va monter un truc ensemble. On va faire quelque chose, etc. Il avait déjà une marque Holiday avec juste sweatshirt, t-shirt, tote bag pour son magazine, pour les lancements du magazine. Et du coup, il m'a dit, est-ce que tu veux développer la collection? Donc je dis, bah, moi, je suis pas designer. En revanche, je connais bien les vêtements anciens. Je pense savoir ce que les clients veulent. Si tu veux, on peut essayer de se débrouiller avec des bouts de ficelle. Enfin, des bouts de ficelle, c'est pas le terme. Mais juste, on peut essayer de se débrouiller pour faire une collection tous les deux avec ma collection, ton œil de DA qui est, il a une vision extrêmement claire de ce qu'il aime et de ce qu'il veut. Et du coup, je lui dis, voilà, si tu me dis, je veux une veste en jean, bah, moi, je vais t'en présenter quatre anciennes que je trouve cool. Je connais leurs défauts, leurs qualités, les matières, etc. On peut faire une petite collection. Et en fait, bah, ce jeu a commencé à prendre vraiment. Et on a trouvé un local que tu as visité tout à l'heure, avec une cave assez grande pour supporter un studio, mon showroom, la boutique à l'étage, Super Stitch en bas. Enfin, bref, tout ce que t'as pu voir tout à l'heure.
On mettra les liens, tout ça.
Beige habilleur, KD Press, tout ça.
Yes.
Donc, on espère de vivier menswear au sous-sol. Et donc, voilà, ça, c'était il y a 2 ans. Et depuis, je continue à développer les collections avec lui et à faire tout ça avec lui. Donc, c'est mon quotidien aujourd'hui. Donc, j'ai le showroom, j'ai mes clients.
Explique-nous comment tu as rencontré Franck exactement. Explique-nous la rencontre.
La rencontre ou comment? Alors, déjà, ça s'est passé parce que chez Ralph Lauren, j'ai vu un homme extrêmement élégant arriver qui s'appelle Louis-Charles Aka. Qui avait une tenue, bref, je me suis dit, ce mec-là n'est pas normal, il a vraiment une élégance cherchée, etc. Donc, je me suis permis de lui dire, je lui dis vraiment, vous avez une élégance extraordinaire, et on a commencé à discuter, etc. Et il me dit ce qu'il fait, il travaillait pour Franck Durand pour de l'habillage sonore pour des boutiques, il faisait des bougies avec lui, etc. Et je lui dis, comme ça, je lui dis, ah, il est vraiment, j'adore ce que fait Franck, j'adore son esthétique, j'adore ce qu'il dégage, j'adore tout ça. Et il me dit, à l'occasion, j'organiserai une rencontre. Puis il dit juste ça comme ça. Et puis un jour, je sais plus comment ça se passe, il me dit bon, bah, c'est bon, Franck va venir dans mon showroom, etc. Et moi, je dis mais j'ai rien à lui dire, j'admire son travail, mais j'ai rien pour lui, quoi. Et en fait, je lui mets un peu dans la merde, il dit mec, j'ai pris rendez-vous avec lui. Ouais, voilà. Du coup, le rendez-vous se fait au showroom, mais en gros, c'est bon, bah salut, j'aime ce que tu fais. Lui, il voit des vieilles fringues, il dit ouais, ok, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et heureusement, on habitait dans le même quartier, il avait ce projet de quartier qui nous a tout de suite.
Rapproché,
on a commencé à discuter, etc. Il y avait la soirée de son magazine auquel il m'a invité ici, Holiday Café, et du coup on s'est revus. Il m'a dit il faut vraiment qu'on fasse un truc ensemble dans le quartier. Je crois qu'il avait aimé ce que j'avais fait dans le showroom là-bas, Et du coup, ben, on l'a, ça s'est concrétisé, quoi. Mais c'est quelqu'un qui est très ouvert à rencontrer des gens. À... Mmh. Il est très ouvert sur tout ce qui se fait, en fait. Du coup, dès qu'il y a un nouveau projet ou quelqu'un qui fait quelque chose qu'il considère comme étant cool, il a envie de le rencontrer, de le voir, de savoir comment il travaille, etc.
Tu peux nous expliquer exactement ce qu'il fait, parce que bon, il fait beaucoup de direction artistique.
Oui.
Mais alors, il fait plein d'autres choses
déjà. Qui fait que du B2B au départ, avant Holiday. Ouais. Donc en fait, il travaille pour des marques. Mmh. Il fait de la direction artistique pour beaucoup de clients, comme Isabelle Marant, comme John Galliano, comme des restaurants comme l'Esplanade, comme le Vélec. Il a refait des boutiques entières en architecture aussi. Mmh. C'est quelque chose qui est assez nouveau. C'est la direction artistique dans l'architecture qu'il fait. Donc, il travaille avec un architecte, mais c'est lui qui donne toutes les directions et les inspirations, le choix des matières, etc. Enfin, des matériaux utilisés. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui, en fait, si je pouvais résumer son CV, c'est son œil. C'est juste qu'il a, c'est quelqu'un qui a un œil et une vision qui est extraordinaire et une façon de fantasmer des marques et des lieux et il a une vision extrêmement française de son esthétique avec une sorte de prisme quand même italien et américain dans certains aspects, mais c'est quelqu'un qui peut te faire un logo, une identité visuelle, un site internet, des cartes de visite,
il faut que j'aille l'interviewer pour comprendre un petit peu tout ça.
Absolument. Ouais, je pense qu'en plus ça l'intéresserait vachement. Mais c'est quelqu'un qui est très discret, qui est très
c'est vrai qu'on voit pas trop
la discrétion.
Je cherchais sur internet avant de venir te voir, des interviews etc, il y a pas grand chose quoi.
Non, et je crois qu'il tient assez à ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, c'est d'abord son travail avant sa personne, et il aime mettre son travail en avant, et c'est quelqu'un de très modeste, de très modeste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de humble et d'extrêmement travailleur. Donc même si on le voit pas, il passe ses journées à bosser, et il fait beaucoup de projets qu'on ne voit pas,
qui sont pas forcément signés, non, ou qui sont pas forcément,
si ils sont signés, mais c'est comme c'est du B2B et c'est on le paye pour un service, et c'est pas quelque chose qui est toujours signé, mais en revanche les gens en interne ou dans le milieu savent que c'est Franck Durand. Puis il a une signature qui est assez palpable. Il a fait travailler aussi beaucoup pour Sandro, pour
on reconnaît que c'est du Franck Durand, comme on reconnaît exactement que c'est du Fabien Baron, etc.
Exactement.
C'est une vraie patte,
c'est du M&M, ou que c'est du c'est vrai qu'il a une patte très forte comme tous les grands DA, et la force de Franck, c'est qu'en plus il a une patte de DA qui est intemporelle, c'est-à-dire que le travail de Franck d'il y a 10 ans, il est toujours beau aujourd'hui, il sera toujours beau demain. Il a cette force. On croit que c'est simple d'être intemporel, de faire des choses classiques et sobres, mais en fait c'est extrêmement difficile. Et c'est la force par exemple de Ralph Lauren. Moi, c'est mon mentor absolu. Ralph Lauren, il fait des vêtements qui sont d'une intemporalité dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens chassent les années 90 de Ralph Lauren, les années 80, le polo sport de début 90 est ultra contemporain aujourd'hui. Et les gens qui sont capables de faire des choses intemporelles, Helmut Lang je pense aussi, ou des gens comme ça, c'est finalement excessivement difficile. Et Franck a cette patte là c'est-à-dire qu'il quand il reprend une marque et qu'il refait son image, j'ai l'impression que la marque a toujours été là. Que ça fait 100 ans qu'elle est là et que voilà, donc c'est quelque chose que j'admire énormément.
Mais ce qui m'impressionne chez toi quand même, c'est que tu as des affinités avec tous ces gens-là et tu les attires et ça paraît assez dingue. Et ce qui m'impressionne encore plus, c'est ta bonhomie, ta gentillesse. C'est horrible, bonhomie, c'est pas vraiment un terme. Mais t'es hyper avenant, quoi, je veux dire. Et c'est peut-être ça qui leur plaît. Et t'es pas impressionné par les gens, j'ai l'impression.
Alors, je le suis. Mais c'est vrai que je parle, alors ça, c'est Ramdan, peut-être qui, c'est pour ça qu'on s'est bien entendu Ramdan, c'est que, déjà, je viens d'une grande famille en nombre, pas en grande famille côté aristocratique, mais je suis une grande famille en nombre et on est des musiciens et on a ce côté un peu saltimbanque de devoir s'adapter partout. Et c'est vrai que je même si je suis impressionné au fond de moi, mes parents m'ont toujours appris à parler de la même façon à tout le monde. C'est-à-dire que je crois que ma concierge m'aime autant qu'un Franck Durand peut m'apprécier. C'est-à-dire que je mets pas de filtre, mais par contre, si j'aime pas quelqu'un, je mets pas de filtre non plus. Donc j'ai pas que des amis et je suis extrêmement entier. Et le truc, c'est qu'en revanche, je suis un peu comme Ramdan pour ça, c'est-à-dire que j'ai besoin d'admirer les gens. Et que ce soit mes potes ou n'importe qui, j'admire les gens pour leur gentillesse ou pour leur talent ou pour leur vision ou pour leur capacité à travailler ou pour leur simple gentillesse. Mais j'ai besoin d'avoir quelque chose qui m'accroche. Je me dis, cette personne a quelque chose que les autres n'ont pas. Et donc voilà, quand quelqu'un est juste arriviste, prétentieux, etc., j'arrive pas. Et donc quand tu dis que j'ai tout de suite un atome crochu, c'est le cas quand ça fonctionne, mais c'est aussi le cas quand ça fonctionne pas. Et donc voilà, il y a des gens.
C'est très instinctif comme truc.
Ouais, exactement. C'est très instinctif. Et j'ai rencontré des grands DA, etc., avec qui ça s'est très bien passé humainement. Mais je sais qu'on travaillera jamais ensemble parce que leur esthétique me correspond pas du tout. Et je trouve que ce qu'ils font, bah, dans un an, ça sera ridicule. Ou des marques qui m'ont demandé de l'aide pour développer des collections, bah, je leur ai tout de suite dit, bah, non, parce que
j'ai pas envie.
Je le sens pas et je sens que ce que vous allez me faire faire, bah, je vais pas être fier de ça.
D'ailleurs, comment tu choisis tes projets?
Alors, parce que j'ai la chance de enfin que les projets me choisissent, déjà c'est plutôt dans ce sens-là.
Ouais, ça vient à toi, c'est des opportunités qui se présentent à toi.
Pour l'instant, c'est que ça. Ouais. Et enfin c'est j'ai jamais démarché, j'ai jamais envoyé un mail à une marque pour lui demander de travailler avec elle. J'ai jamais, même pour le vintage, j'ai jamais envoyé un mail à une marque en disant voilà, j'ai du stock vintage pour vous. Je considère que ça doit être que du bouche à oreille, j'y vais très doucement. J'ai des concurrents qui font ça, qui envoient des lettres, qui envoient des mails, qui envoient des newsletters, qui envoient des trucs comme ça. Je considère que mon travail, c'est un travail de discrétion, c'est un travail de sobriété, c'est d'être le plus humble possible pour être le plus spongieux possible, en fait. C'est-à-dire que si je suis dans une démarche commerciale, je vais perdre le jus. C'est-à-dire que je vais perdre ma curiosité et mon intérêt pour le vêtement. Moi, mon but, c'est de rester le plus frais possible. Donc voilà, mon stock est disponible pour les professionnels. S'ils veulent venir, c'est tant mieux. S'ils viennent pas, c'est pas grave.
Tu démarches pas. Et tu refuses des gens ?
Oui. Alors, je refuse des particuliers juste pour un problème de temps.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai pas le temps de m'occuper de la personne particulière qui veut collectionner ou qui veut acheter une pièce. Pour l'instant, alors là, je vais ouvrir une fripe bientôt, donc ça sera dédié justement à cette clientèle-là de B2C, de clients directs. Et je refuse des marques aussi de temps en temps où je considère que c'est pas... Ça fait prétention de dire ça, c'est pas du tout ça. C'est juste que je considère que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir choisir. Je pense qu'il y a des marques qui perdent leur temps et qui pour moi sont pas légitimes dans le métier de la mode. Je considère que la mode aujourd'hui, elle, si vous avez pas une valeur ajoutée, que ce soit esthétique ou une vision d'un business qui est intéressant pour le futur, je considère que vous avez pas votre place et ça sert à rien que vous existiez.
Ouais.
Donc je pense qu'aujourd'hui le marché est très cruel et en train de faire le tri. Je pense que tout l'espèce de milieu de gamme, un peu le ventre mou de ce métier-là est en train de souffrir beaucoup, ce qui est presque bien. Je considère qu'il y a le mass market n'est pas du tout un défaut quand il est bien fait. Je pense tout de suite à Uniqlo, qui est un peu mon exemple à chaque fois. Mais Uniqlo fait un travail exceptionnel de rationalisation des coûts par le volume, mais pas par la qualité. Et du coup, le nombre de fois où je vois un copain, je dis « mais c'est quoi ce t-shirt ? Il est magnifique !» Et une réponse sur deux, c'est Uniqlo.
Ouais.
Je pense que c'est des gens qui ont tout compris, en fait. C'est-à-dire que c'est un fonds de vestiaire de qualité qui ne ment pas et qui est bas en coût, pas parce qu'il est nul, mais simplement parce qu'il rationalise au maximum le volume.
Revenons à ta rencontre avec Franck Durand. Qu'est-ce qui t'a dit, qui t'a convaincu et que tu l'as suivi?
Bah déjà, c'est Franck Durand. Donc quand Franck Durand se baisse sur vous et considère ce que vous faites, déjà vous dites merci. Moi, c'était une consécration et je me suis dit, si cet homme-là je peux travailler avec lui ne serait-ce qu'un petit peu, ce serait extraordinaire.
Et tu commences à bosser avec tes héros, c'est cool quoi.
Exactement. Ouais. C'est vrai que mon héros absolu dans le vêtement pur, c'est Ralph Lauren. J'ai pu travailler avec lui, je pensais pouvoir travailler plus avec lui, mais ça a pas pu se faire et je pense que c'était impossible. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui l'habillent personnellement, comme le réseau de Chiffonelli qui fait ses costumes sur mesure. Mais bon, je pouvais pas aller plus loin. Après, j'ai rencontré Franck, que j'admirais énormément pour son travail de direction artistique. Et du coup, quand cet homme m'a dit, on va travailler ensemble sur le développement d'une marque, j'avais les jambes qui tremblaient, je disais à ma femme, c'est pas possible, je pense qu'il a pas compris ce que je faisais vraiment. Donc, j'arrêtais pas de lui répéter, Franck, je suis pas un designer, je vais bien t'aider, mais par contre, je suis pas designer. Je lui ai répété plusieurs fois pour être sûr qu'il y ait pas de mensonge entre nous.
Et pourquoi tu te dis pas designer d'ailleurs?
Bah, c'est une question que je me pose aussi. C'est que quand je vois des grands DA aujourd'hui dans des grandes maisons de luxe qui sont finalement comme moi, qui sont des stylistes et même pas des stylistes, des gens qui aiment le vêtement juste et qui se disent, je vais prendre ce vintage et le refaire. Sauf que moi, je l'assume absolument pleinement, ce truc-là, je l'embrasse totalement. Et je suis pas un designer dans le sens où pour moi, un designer, le vrai métier de designer, c'est quelqu'un qui prend son ordinateur ou un crayon et qui vous fait une fiche technique, qui est capable de faire une gradation, qui est capable de faire un développement sur mannequin ou faire du flou, etc. Ce que moi, je sais pas faire du tout. C'est-à-dire que moi, je suis peut-être un synthétiseur de savoir-faire. Je fédère peut-être des gens, etc. Mais ce serait mépriser le travail de vrai designer que dire que j'en suis un.
Mais après, on part toujours de quelque chose, non ?
Oui.
Tout le monde part toujours de quelque chose, et même les plus grands artistes du monde, des Picasso, des Matisse, etc., ils l'ont toujours dit ouvertement, on ne crée rien, on part toujours d'une base, quoi.
Alors, Picasso particulièrement, vu qu'il est parti de copier tous les gens qui l'entouraient, mais je considère que Picasso est un. Je serais peut-être un Picasso, mais en pleine conscience, voilà. Ça peut être bien moi.
Ouais.
C'est-à-dire que je peux faire ce que fait Picasso, mais en conscience. Que je ne crée pas, que je m'inspire toujours de quelque chose d'existant et que je ne fais que mixer des choses qui existent. Donc je suis pas un génie créateur du tout. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je montrerai jamais de marque personnelle. J'aime aider les gens qui ont quelque chose à dire. Et moi, j'ai pas de quelque chose à dire. J'ai pas souffert. J'ai pas eu une enfance qui fait que j'ai envie de dire quelque chose. J'ai pas été dans un milieu social social qui a dit que je voulais me révolter, que je voulais créer des vêtements pour dire ça. Je pense que pour être un génie créateur, il faut avoir quelque chose à dire et il faut avoir vécu quelque chose de fort pour ça. C'est pas mon cas. J'ai eu une enfance très douce, très bourgeoise, très calme, très, voilà, très, mais pleine de culture. C'est-à-dire que mon père, on m'a toujours dit, c'est la culture avant l'argent. On n'avait pas d'argent, mais on passait nos vies dans les musées, dans les concerts, à regarder les objets. Dès qu'on passait devant une voiture, mon père me disait, ah, vraiment, ce phare, il a pas la bonne proportion, le bon truc. Donc, c'était la culture de l'œil avant tout. Et c'est ce que j'essaie d'avoir dans mon métier aujourd'hui, mais je suis pas un Slimane, je suis pas un Phoebe Philo, je suis pas un Demna, je suis pas un, j'ai pas de vision comme ça, j'ai pas un truc à dire très fort. Alors c'est l'avantage, c'est que ça va peut-être me pérenniser dans le métier, c'est-à-dire que je vais travailler avec des gens qui sont forts comme ça, mais moi je suis pas ce mec-là. Je vais travailler pour ces mecs-là, avec grand plaisir, et je vais les aider. C'est-à-dire que, un Demna qui dit, voilà, je cherche une veste en jean années 90 avec de l'acide wash dessus, bah, je vais dire, la bonne, c'est celle-là, la mythique, c'est celle-là, etc. Donc, moi, mon devoir, c'est un travail de bibliothécaire, c'est un travail de stocker de l'information. Alors, en physique, au showroom, ou dans ma tête, en inspiration. C'est-à-dire que tous les matins, je bouffe entre 100 et 500 images que je cherche, entre les livres, les Tumblr qui, grâce à Dieu, existent encore et s'il vous plaît, continuez. Donc je cherche beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inspiration en permanence. Et ça, c'est mon job. C'est d'être une espèce d'éponge, de stocker de l'information et de la redonner aux designers qui me font confiance.
Et tu travailles avec tous les designers des grandes maisons aujourd'hui?
Pas tous, non. J'ai des fidèles, j'ai des ponctuels, j'ai des mystères, c'est-à-dire des gens qui m'envoient des stagiaires ou des voilà qui se font passer pour des étudiants et qui me prennent des pièces. Alors je sais très bien que ça finit dans des grands studios, mais voilà, ça c'est leur, c'est, je le comprends complètement cette pudeur et le fait de pas vouloir dire que c'est eux. Mais j'ai beaucoup de copains dans les studios, du coup je sais que ça finit toujours dans ces trucs là mais je suis très content finalement de travailler comme ça, que j'ai pas le grand DA qui arrive dans le showroom, qui a un travail de pré-machage avec un assistant studio ou un directeur studio, etc. Des gens avec qui j'ai plaisir à parler, parce que c'est des vrais professionnels du métier. C'est pas des bullshitters, c'est pas des DA avec des égos qui passeraient pas la porte. C'est juste des gens du métier, du produit, et j'adore ça quand je vois des mecs qui arrivent et qui comprennent ma sélection, qui disent, ouais, là je vois ce que t'as regardé, là je vois que t'as vu la matière, là je vois que t'as vu la construction, là je vois que t'as vu le patch. J'adore ça et j'adore parler de produits.
Comment dans chaque maison avec laquelle tu travailles, est-ce que tu travailles avec du luxe, de l'ultra luxe, mais du moyenne gamme aussi, du, je sais pas comment tu classes tes clients, comment ils utilisent à chaque fois tes vintage? J'imagine que c'est très différent. Est-ce qu'il y en a qui doivent prendre qu'un petit détail? Il y en a qui recopient tel quel?
Absolument. Alors ça, c'est très intéressant pour moi, parce que ça, je le découvre à chaque fois que j'ai un nouveau client. C'est qu'il y a des mecs qui me louent une pièce pour un bouton, il y en a pour un volume, il y en a pour une matière. Il y a des boulimiques aussi qui me prennent des piles et des piles et des piles de vêtements pour finalement en garder une à la fin. Et il y en a au contraire qui sont extrêmement spécifiques et qui me disent, je veux, c'est arrivé l'autre jour avec une grande maison française que je respecte beaucoup, qui m'a dit, je veux un Levi's 517. Donc là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, est-ce que tu as un Levi's 517 dans telle taille? Alors, par hasard complet, parce que j'en avais un, c'est dans la bonne taille et ça a fonctionné. Donc c'est vraiment complètement différent. Et après, il y a des grandes maisons, des grands groupes comme Kering ou LVMH qui viennent et qui me prennent 50 pièces, quoi, tu vois, pour au début de la collection, juste pour se nourrir et pour avoir beaucoup de matière à digérer. Donc c'est à moi aussi d'avoir le vrai problème, c'est que je veux que des pièces exceptionnelles au showroom et que c'est très difficile d'avoir beaucoup de volume de ça. J'ai des concurrents ou des confrères qui sont dans le volume, donc ont beaucoup de pièces qui sont peut-être moins intéressantes. Moi, j'ai fait le choix d'avoir que entre 500 et 1000 pièces à chaque fois présentées, mais chacune d'elles a vraiment un intérêt et elle est très difficile à trouver sur le marché.
Et comment tu te sources justement?
Alors, je me source un peu partout. Avant, je me sourçais à Paris, de moins en moins, parce qu'il y a mon nom qui a un peu trop tourné, du coup. Voilà, les prix sont un peu plus élevés à chaque fois et c'est un peu difficile d'acheter Opus. Mais j'ai des copains hyper proches Opus qui m'aident vachement. C'est pas un problème, ça, c'est bon?
Non, c'est bien, ils s'expriment, c'est cool.
Okay. cool. Et du coup, c'est des copains qui me disent, voilà, là, j'ai trouvé un truc qui est bizarre, est-ce que ça t'intéresse? Alors, je suis hyper dur à l'achat, ça, c'est sûr. Je suis prêt à payer très cher, mais par contre, il faut que la pièce soit exceptionnelle. Ouais. Donc ça, je leur dis toujours au départ, quand je commence à bosser avec quelqu'un, je dis, voilà, sache que te vexe pas. Il y a plein de trucs que tu vas trouver exceptionnels, mais que moi, je vais pas vouloir. Par exemple, si vous me sortez un Levi's Biggie des années 50, Deadstock, etc., il y a très peu de chances que ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'une pièce rare pour la collection m'intéresse pas. pas parce que ça reste un jean. Un t-shirt blanc de 1940 de l'armée américaine avec juste marqué US Navy va pas forcément intéresser.
Parce qu'il y en a énormément sur le marché en plus.
Bah non, il y en a très très peu.
Avant.
Il est très cher, mais il est très cher par sa rareté, mais pas par sa puissance
visuelle.
Ouais. Visuelle, ouais, graphique, ou voilà, toi tu sais, on peut le dire.
Ouais.
Ouais, tu dessines des sacs.
Ouais.
Je pense que t'es dans le même cas que moi à chercher des trucs que t'as jamais vus. Mm. Et c'est pas forcément une pièce qui est rare. Par exemple, si t'as un Kelly des années 40, tu vas t'en foutre en fait parce que ça reste un Kelly.
Bah ouais.
Par contre, un sac peut-être de montagne des années 70, pas du tout rare, mais avec une poche hallucinante, avec un soufflet.
Ça va t'exciter.
Ça, ça va t'exciter. Et moi, je suis allé à Londres il n'y a pas longtemps pour faire un truc avec Matches et Garance Doré. On a fait un talk, etc. Bon, le lendemain matin, j'ai pas pu m'empêcher d'aller à Portobello. Et il y a un mec qui me sort des pièces rarissimes et tout, mais en fait, que tu as dans tous les livres, que tu as dans tous les trucs, ça ne m'intéressait pas. Et il avait un Kawai avec plein de couleurs. Un truc débile des années 80, fabriqué à Taïwan. Mais la couleur et le volume était extraordinaire. J'ai sauté dessus comme la misère sur le monde. Mm. Et c'était un truc à 25 pounds. Mais le truc, c'est que je l'avais jamais vu. Donc, en fait, le prix n'a aucune importance. Mm. Et j'étais prêt à payer 300 pounds, ce truc-là. Mm. Je m'en fous du prix. Mm. En fait, comme mon but, c'est pas de revendre derrière, c'est d'avoir une base de données ultra qualitative. Mais en fait, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Mm. Donc, c'est ça ma grande liberté. C'est que si t'arrives avec une pièce que j'ai jamais vue, je la paye. Donc, je me démerderais, même si tu dois faire un prêt ou n'importe quoi, je suis toujours à l'affût de...
Tu peux nous donner des ordres de grandeur? Ça coûte quoi d'acheter une pièce comme ça?
Bah, très rare. Tu vois, là, j'ai payé un ensemble plusieurs milliers d'euros. Et après, je vais payer des trucs 20 pounds. Donc, en fait, le prix vraiment n'importe pas dans mon processus d'achat. Mm. Avant, j'achetais beaucoup sur eBay, beaucoup sur Etsy, etc. Mm. Le problème, c'est qu'une pièce exceptionnelle sur eBay ou sur Etsy, elle est visible de tous, de tous les marchands, de tous les trucs, etc. Donc, et surtout en interne dans les maisons, maintenant, il y a beaucoup de vifs qui regardent sur tout ça et qui, du coup, ça perd un peu de son intérêt. Donc, maintenant, je travaille avec des piqueurs au Texas. Et j'ai un ami aux États-Unis qui fédère tout ça, qui s'appelle Philippe, que j'embrasse très fort s'il m'écoute, et qui au début je parlais pas de lui, et en fait on a une relation tellement saine, proche et qualitative que c'est vraiment mon partenaire pour tout ça, quoi. Et il m'aide vachement à sourcer tout ce qui est aux États-Unis, et lui il a la source, et du coup il a des pièces que personne n'a jamais vues parce qu'il les sort des usines de tri à la frontière mexicaine. Du coup, on est vraiment à la base de la base de la base. Faut savoir que les États-Unis, c'est comme un entonnoir qui se termine au Texas. Et en fait, tous les vêtements qui sont jetés à la poubelle aux États-Unis finissent dans des zones de tri qui après passent au Mexique. Dans ces zones de tri, l'or, c'est du Nike avec une étiquette ou du Abercrombie avec une étiquette. C'est ça ce qu'ils cherchent. Donc, ce que moi je cherche, ils le mettent à la poubelle quasiment. Donc, il y a quelques vifs là-dedans qui chopent les bons trucs, etc., et qui savent qu'il y a un marché là-dessus. Mais un Levi's ancien, troué, pété, etc., la grande majorité finissent à la poubelle. Donc, en fait, ce qui est très frustrant quand je suis allé là-bas et que j'ai vu ces montagnes de vêtements, c'est de me rendre compte que ce que je cherche, c'est jeter tous les jours par centaines et par centaines. Donc, j'ai des projets à plus long terme dont je peux pas vraiment encore parler, mais j'ai des projets de sauvetage de vêtements en grand volume, parce que je considère qu'on produit trop de vêtements, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la légitimité des marques. Aujourd'hui, je trouve qu'on produit trop de vêtements et que tout ce ventre mou de la mode, qui sont plus dans l'immobilier que dans la production qualitative de vêtements, moi, me déplaît vachement. Et je considère que soit vous apportez quelque chose de créatif, et là, c'est important sociologiquement, c'est-à-dire que la démarche créative dans le vêtement, l'évolution esthétique, tout ça, c'est important. C'est, pour moi, c'est même vital. C'est-à-dire que c'est sociétal. Le vêtement, il n'y a pas de valeur absolue. C'est pour ça, quand on me demande c'est quoi le jean parfait, je peux te dire le jean que je considère parfait cette année. Mais c'était pas le même l'année dernière, c'est pas le même demain. L'évolution est hyper importante. Sinon, on aura encore des peaux de mouton sur le corps, tu vois. Et donc, les passéistes qui disent l'absolu, c'est le costume bleu marine avec la cravate noire et la chemise bleu ciel, je considère pas que c'est une démarche intéressante. Je pense que le vêtement est fait pour évoluer. Donc les génies créatifs qui sont des éponges sociales qui captent tout ce qu'il y a autour de nous et qui en font une collection de vêtements, c'est hyper important. Par contre, le ventre mou qui copie ces gens-là, qui sont plus chers que Uniqlo et qui sont pile entre les deux comme ça, et qui sont quand même très chers pour ce que c'est, et voilà, tout ça, je considère qu'il n'y a pas vraiment de lieu d'existence. Et je pense que ça, sur le long terme, le marché va être de plus en plus cruel grâce à Internet. Et il y a des marques brillantes en termes de business qui se créent, comme Asphalt, que tu as interviewé, qui sont du direct to customer, vraiment, qui vendent en direct, il n'y a pas de marge de wholesale. Le wholesale est vraiment un problème, je pense, aujourd'hui.
Qui font des trucs bien.
Vachement bien, sûr. Et en fait, ils se structurent pour avoir des DA, justement. Moi, je travaille un peu avec William, au développement du produit, pour essayer de l'améliorer, etc. Toujours en partant de ma culture vintage, de construction vintage. Et du coup, ces marques-là sont intéressantes parce que, en termes de prix, ils sont en dessous, pas parce qu'ils sont moins bien, mais parce qu'ils coupent une marge. Donc effectivement, ils ont pas de boutique, c'est plus difficile, tu dois le recevoir chez toi, etc. Il y a cette contrainte-là, mais au moins, ils ont pas un prix qui est délirant et ils surproduisent pas nettement puisqu'ils ont cette démarche de faire d'abord des précommandes. Mmh. Donc ils produisent ce qu'ils ont vendu, ce qui est hyper sain.
Donc, mais tu penses que le marché va évoluer là-dessus? Parce que toi qui vois tout, tu vois tout le marché et ça fait longtemps que t'es dedans. Comment tu sens que ça va évoluer ce truc-là?
Alors, je vois pas tout et je te remercie de le penser, mais je pense qu'il y a beaucoup de trucs que je vois pas et je suis surpris tous les jours. Mais c'est vrai que j'ai une vision à peu près d'ensemble vu la variété de mes clients. Je pense que l'évolution, c'est mon pronostic. Hein, on est quoi, le 19 octobre 2018. Je dis ça et je pense que ça va être ça. Madame Soleil, bonsoir. Du coup, je pense que le wholesale va souffrir. Le wholesale qui n'est pas important. Je pense que les marques vont se structurer avec un flagship vraiment représentatif d'image, donc vraiment avec une très belle architecture, un service de qualité, etc. Un e-shop très compétitif où tu peux recevoir rapidement tes marchandises. Mais en fait, le fait d'être distribué dans le monde entier dans des gros multistores qui font des marges colossales, qui font des soldes colossales à la fin, tout ce principe de solde, etc., à mon avis, va vraiment s'écrémer parce qu'on se rend compte que les clients... Le vrai prix qu'ils veulent payer, c'est le prix soldé. À part les clientèles émergentes qui sont prêts à payer n'importe quoi, n'importe quel prix pour avoir le truc et pour avoir un marqueur social. Même eux, tu vois, les Russes, il y a 20 ans, on les voyait arriver avec des trucs en croco, des chaussures brillantes, etc. Ben, en fait, ces mecs-là, ils voyagent, ils vont à Saint-Tropez, ils vont à Megève, ils en ont marre d'être catégorisés comme le Russe blindé. Donc finalement, ils finissent chez l'Europiana. Et chez l'Europiana, ils veulent du cachemire bleu marine que personne ne voit. Ils veulent du luxe, du très bien fait, mais qui se voit plus. Donc en fait, cette espèce de marqueur social très cher, il est en train de se perdre petit à petit. Donc je pense que petit à petit, j'espère que les marges vont diminuer, que le wholesale va disparaître, que les marques vont structurer leurs ventes en direct et que du coup, cette double marge qui a un minimum de 5 entre le coût de production et le coût de revente, ça c'est le coût minimum. Et c'est pas des voleurs ceux qui font ça, c'est une nécessité parce qu'il faut payer beaucoup de vendeurs, il faut payer beaucoup de gens, beaucoup d'intermédiaires. Cette double marge doit être coupée et passer directement au client. Et ce client, il faut l'éduquer dans le bon sens du terme. Je le méprise pas en disant ça. Il faut qu'il ait des clés pour savoir comment consommer. Et ces clés, c'est les professionnels comme nous qui doivent lui apporter. Donc c'est pour ça que j'ai lancé ce magazine hier, L'Étiquette, avec Marc Boget. On essaye d'axer les gens là-dedans, c'est de moins consommer, de mieux consommer, d'être moins frénétique. Alors c'est aussi très masculin ce que je dis, je pense. C'est quelque chose, la façon de consommer est très masculine. Elle est moins émotive.
C'est hyper misogyne ce que tu dis.
Ouais, peut-être. Peut-être, mais c'est quand même étayé par des faits que je vois quotidiennement. C'est moins, la femme est plus émotionnelle, plus dans la sensation.
Et tu penses qu'on peut éduquer aussi? Voilà,
c'est pour la femme. Non, c'est pas, alors je pense que la femme a quelque chose de...
Tu vois, du asphalte pour la femme, tu crois pas que ça peut exister?
Je considère que Cézanne fait très bien le boulot, par exemple, pour ça. Je parle pas du produit que je décris pas, mais qui n'est pas ma tasse de thé. Mais par contre, je ne peux constater un succès colossal commercial, une satisfaction des clientes qui ont tenté de payer ce prix-là. Mais tu vois, la version Cézanne de l'homme, pour homme, qui s'appelle Octobre Édition, c'est le même principe, le même business model, la même clientèle. Mais comme c'est pour homme, c'est pas du tout pareil en termes de produit. C'est beaucoup plus expliqué. Il parle des matières, il parle des lieux de fabrication, il parle des zips, il parle des boutons. C'est un copain qui s'occupe de tout ça, qui s'appelle Alexandre Franza, qui fait très très bien le boulot, qui est très bon dans le produit. Et c'est vrai que le client Octobre Édition, qui est le mari de la cliente Cézanne, pour la grande majorité, ben on se rend compte que la consommation n'est pas du tout la même. La cliente Cézanne a besoin d'imprimer, de matière douce, de quelque chose de très saisonnier, etc. Le client Octobre Édition veut acheter le bon pull bleu marine, le bon jean, la bonne paire de boots qui va durer. Je pense quand même que c'est pas de la misogynie, mais que la femme consomme complètement différemment de l'homme. Et faut en prendre conscience et embrasser cette idée et le faire en toute conscience quand on fabrique un produit. Donc je pense que moi, je travaille quasiment que pour l'homme. Enfin, beaucoup, à part pour le vintage, hein, mais en consulting, etc., je travaille beaucoup, beaucoup pour l'homme parce que c'est ma spécialité. L'homme doit savoir ce qu'il achète. Il est intéressé par ça. C'est vrai qu'il y a cette culture du soulier, vous savez, ce truc du cigare, de tout ce truc de dandisme masculin,
de la montre,
qui moi n'est pas de ma tasse de thé non plus. J'aime beaucoup le tailoring, j'aime beaucoup tout ça. Mais je considère que cette passion du produit peut être déclinée sur un t-shirt, sur une basket, sur une voiture, sur une lunette. Un bon produit, c'est un bon produit sur tout. Et du coup, j'aime bien jouer avec des trucs, excuse-moi. Et voilà, il ne faut pas être extrême même dans son style et se dire qu'un produit peut être aussi bien fait à la main en Italie dans un atelier et derrière une machine à coudre en Allemagne, enfin n'importe où en fait, les machines à coudre, si on les a créées, c'est pour une bonne raison. Et là, je cite Basile de chez Beja Bière qui applique ce principe dans sa sélection de produits. Il n'y a pas que le costume qui est bien fait. L'industrialisation n'est pas une mauvaise chose quand elle est rationnelle et quand elle est bien faite. Du camber, c'est fabriqué sur des métiers à tisser traditionnels aux États-Unis, mais c'est industrialisé, c'est du workwear, c'est du basique, et c'est très très bien comme produit. Donc, faut pas trop se dire que la main c'est l'ultime. Parfois, la main n'a aucun sens. Vous voyez, faire un jean à la main, il y a un mec qui fait ça au Japon et bravo parce que le produit est très bien fait. Mais pour moi, c'est sortir le produit de son contexte, de son histoire, de son essence.
Ouais.
Exactement, de son essence. Il y a des produits qui doivent être fonctionnels et dans ce cas-là, ils ne doivent pas coûter cher et ils doivent être, vous voyez, un t-shirt Hanes qui est fabriqué en République Dominicaine et qui coûte $10 les 10, c'est pour moi un bon produit, c'est-à-dire qu'il ne ment pas à son client, il est fait pour être consommé, il est fait pour, voilà, et en République Dominicaine, il y a un droit social, il y a, voilà. Après, le truc, c'est qu'il y a ça j'aimerais bien en parler aussi rapidement, il y a un reportage qui est sorti sur le luxe, là, sur France 2, dernièrement, tout le monde a crié au génie. Je considère qu'ils ont complètement décentré le sujet. Le luxe, c'est pas, ils sont pas responsables des droits sociaux dans tous les pays dans lesquels ils produisent. Alors je sais qu'il faut avoir un droit de regard, etc., et qu'ils sont responsables de ça, mais ils le sont. Enfin, j'ai trouvé ça très dommage de cracher sur les maisons de luxe qui ont certes des fourrures, du cuir, etc. Alors la fourrure, c'est un autre débat, du cuir aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que les conditions de travail des usines, des maisons de luxe ne peuvent pas être surveillées à temps plein par les maisons de luxe. C'est-à-dire que sinon, il faudrait engager 1000 personnes de plus sur place pour surveiller tout ça. Et c'est pas leur métier. Le métier de la maison de luxe, c'est que le produit qui est en boutique ne déçoit pas le client. Que le cuir soit beau, que la couture soit bien faite, que le marquage au fer soit bien fait, tu connais ça par cœur, et c'est ça son métier. J'ai trouvé que c'était un petit peu facile d'aller taper sur le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant de chez Balenciaga, de chez Saint-Laurent, de chez tout ça, qui respecte pas les droits sociaux de son pays. Malheureusement, il a pas le temps matériel, c'est déjà tellement dur d'exister aujourd'hui dans ce monde, toi tu le sais, t'as travaillé pour des grandes maisons de luxe. Voilà, c'est j'ai trouvé ça un petit peu facile si tu veux d'aller taper sur ça. Alors c'est un vrai débat et je suis prêt à entendre des arguments inverses.
On va organiser ça,
ouais, une table ronde autour de ça. Mais voilà, c'était pas pour taper non plus sur l'émission, c'est simplement le luxe a d'autres défauts et ou dont on pourrait parler, dont ils sont réellement responsables. À mon avis, aujourd'hui en tout cas, que ce soit en termes de création, en termes de représenter des gens, de profiter d'un réseau de gens qui n'ont pas forcément un talent de designer, mais simplement un talent de fédérateur d'une communauté, de profiter d'une communauté, mais c'est décentrer vraiment leur travail et la qualité. Et ça, là, on peut en parler longtemps. Un sweatshirt à 800€, fabriqué au Portugal, imprimé, ça, je veux bien en parler. Pour moi, ce n'est pas du luxe, c'est décentrer. Pour moi, le problème des gros groupes de luxe, c'est de faire oublier au client final ce que c'est que le luxe. Et ça, c'est un vrai problème. Le luxe, j'ai une théorie toute faite que je répète tout le temps et je suis désolé pour tous mes proches qui m'ont entendu dire 100 fois, c'est le temps nécessaire et incompressible à l'élaboration d'un produit, que ce soit dans la matière et dans la fabrication. Plus ce temps est long, plus le produit est luxueux. C'est aussi bête que ça et je l'ai trituré dans tous les sens. Cette théorie marche de bout en bout. Le chêne est plus luxueux que le bambou. C'est simplement parce qu'il prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps à se développer et du coup, la fibre est beaucoup plus dense, etc. Ça, c'est valable pour tout. Une belle peau, c'est une sélection, c'est quelqu'un qui fait bien le travail de pas avoir des barrières métalliques sur lesquelles la bête va s'accrocher. Enfin, c'est tout ce temps appliqué à un produit que tu peux pas compresser, parce que sinon tu mets un nullard qui fait un sac en cuir, évidemment il va être plus de temps, mais c'est pas pour ça que ce sera mieux fait. Mais le temps incompressible, c'est ça qui définit le luxe d'un produit. Donc quand une marque de luxe fait un sweatshirt imprimé et dit que c'est du luxe, c'est plus du luxe pour moi. Et ça, j'ai l'impression que les groupes de luxe font tout pour qu'on oublie ce que c'est que le luxe. Et si Hermès était cher à l'époque, si Louis Vuitton était cher, ils n'étaient pas chers, ils étaient coûteux. Et la différence, c'est que cher, c'est quand le prix est décentré du temps nécessaire justement à faire un produit ou des matières utilisées. Il y a encore aujourd'hui des maisons de luxe. Et pour moi, les maisons de luxe aujourd'hui, c'est les artisans. C'est plus les maisons de luxe. Le problème, c'est qu'un artisan n'a pas forcément le goût d'un DA et les antennes, entre guillemets, d'un DA, les antennes sociales pour comprendre ce que veut la masse. Et pour moi, le luxe absolu, c'est un DA qui va avoir un artisan. C'est-à-dire quelqu'un qui a le goût de faire un produit qui va plaire avec le savoir-faire d'un artisan. Et là, pour moi, on est tout en haut. Donc voilà, c'est ma vision en tout cas d'un vrai luxe.
Cool.
Donc, quelqu'un comme toi qui fait des sacs, je ne sais pas si tu fais de l'artisanat toi ou si tu fais simplement du développement de produits, mais tu connais des artisans. Si tu as vraiment bon goût et que tu vas voir un artisan sellier ou un artisan maroquinier et que tu lui demandes de faire quelque chose de très très beau et en plus avec son savoir-faire, le problème c'est que ça demande une modestie ou un ego bas de l'artisan, d'humilité qui dit voilà, moi je sais faire mais j'ai pas le goût, aide-moi parce que toi t'as le goût. Là je trouve que c'est un parfait match et c'est ce que j'essaie de faire avec Kidur, qui est une marque
Parce que là il y a tellement de sujets, d'autres sujets à parler, parce que t'as lancé le magazine avec Marc Gauger, on a toujours pas parlé de Holiday vraiment concrètement, la vision de Holiday, t'as Kidur, t'es le couteau suisse entrepreneur quand même, tu fais énormément de choses.
Tant que je suis un couteau suisse qui livre les projets, ça va, mais là je t'avoue que je suis à la limite et que là je prends plus de projets.
D'ailleurs, comment ça s'organise ça quotidiennement? Parce que tu as plusieurs business à gérer, comment tu fais?
Alors déjà je suis indépendant, déjà mon vrai business, enfin mon principal c'est Holiday, parce que c'est mon full time, c'est aussi là où je suis physiquement, etc. Donc je suis avec l'équipe en permanence et tout ça. J'ai une équipe en béton qui me permet d'avoir du temps libre. J'ai la chance que Franck Durand me laisse du temps libre aussi pour faire des projets annexes, parce que c'était le deal de départ, c'est-à-dire que j'étais indépendant dans sa structure. Donc Holiday, je fais les collections. J'aide Franck à développer le projet global Holiday aussi, mais ça c'est vraiment de l'amitié, c'est-à-dire que c'est pas mon travail sur mon contrat entre guillemets, mais c'est voilà, on échange beaucoup, etc. Et je l'aide à développer.
Parce que c'est quoi la vision?
La vision de Franck?
La vision sur Holiday. Ouais.
Alors déjà Holiday, ça appartient exclusivement à Franck Durand, c'est quelque chose qui est son bébé, qui doit le rester, parce que du coup il y a qu'une tête pensante là-haut et ça c'est hyper important. Et parfois Franck me dit qu'il veut faire un truc, moi je suis pas forcément d'accord, et quand je vois le produit je dis bah en fait il a raison depuis le début, c'est parfaitement cohérent avec le reste. Donc c'est important d'avoir une seule tête décisionnaire. Donc moi je peux apporter des idées, etc., mais c'est lui qui tranche à chaque fois et systématiquement. Et Franck, sa vision, elle est globale. Elle est lifestyle. Lifestyle, j'aime pas ce mot-là, mais malheureusement, j'ai pas trouvé autre chose pour synthétiser ça. C'est-à-dire que la vision de Franck Durand, c'est une façon de vivre à la française, exigeante en tout. C'est-à-dire que et ça veut pas dire que c'est coûteux. C'est-à-dire que, tu vois, un bon plat de pâtes avec une noisette de beurre, ça peut être Franck Durand. C'est pas forcément du caviar dans une Maserati, c'est pas du tout ça. Ça peut être une petite voiture française des années 60 qui coûte pas grand-chose, avec une vieille paire de Alden complètement défoncée et partir à la campagne dans une jolie maison. Franck Durand, c'est, j'ai l'impression d'en parler comme si c'était quelqu'un de mort ou d'éternel, mais pour moi son esthétique elle est éternelle, ça c'est vrai. C'est une façon de vivre, et cette façon de vivre elle se traduit par des produits, par de la nourriture, par un magazine, par des voyages, par des lieux de vacances, partout en fait. Et Holiday, c'est ça synthétise tout ça. Donc à la base, c'est un magazine américain des années 40, et il a racheté ce magazine il y a 5 ans maintenant, je crois, 5 ans, qu'il a relancé. Et il a relancé exactement à l'identique, c'est-à-dire deux fois, enfin le tempo, je sais plus exactement, enfin la périodicité, mais là il le fait deux fois par an. Il choisit un endroit dans le monde, il envoie les meilleurs stylistes, journalistes, photographes, écrivains parler de cet endroit-là. Donc le dernier c'était sur le Bhoutan, celui d'avant c'était sur la Californie, et le but du jeu c'est il y a eu Jérusalem entre les deux, c'est pas Israël, c'est Jérusalem, c'est très important ce point-là, c'est Jérusalem et l'esthétique de Jérusalem. Et donc voilà, il envoie et dans un endroit du monde les meilleurs stylistes, photographes, etc. Et il fait un truc sublime, que moi personnellement je trouve sublime. Donc ça c'est Holiday, et moi je l'aide juste dans toute cette branche-là à transformer sa vision globale en un produit vêtement. Donc c'est ça mon travail pour lui, c'est comment décliner sa pensée globale de lifestyle dans une ligne de vêtements. Donc on travaille tous les deux à l'élaboration de cette collection. Ensuite j'ai Kidur. Kidur c'est une usine française qui s'appelle C2S et qui fabrique des chemises, c'est ça son cœur de métier, pour des marques de sur-mesure françaises, mais aussi pour des grandes boîtes de luxe, majoritairement de chez Kering. Donc voilà, il fabrique des chemises pour des grandes marques de luxe que tu connais très bien. Et donc ils sont venus me voir un jour, parce que je travaillais pour un de leurs clients qui s'appelle Swan Oscar, qui fait des chemises sur-mesure. Et ils sont venus me voir en me disant voilà, on possède une marque depuis 1925. Qui s'appelle Kidur, qui fait des chemises Kidur, aussi bête que ça puisse paraître, parce qu'à l'époque il y avait cette mode, il y avait les montres qui plaient, il y avait les lampes qui éclairent. Alors c'est une chose qu'on n'a rien à voir, mais c'était comme aujourd'hui tout le monde dit atelier ou maison ou studio ou voilà. Il y avait cette mode là, donc c'est Kidur. Et Kidur m'a demandé de faire des collections, de relancer cette marque. Donc je leur dis avec grand plaisir, à une seule condition, c'est qu'il y a personne entre l'usine et le client. Il n'y a pas de wholesale, il n'y a pas d'agent, il n'y a pas de boutique, il n'y a rien du tout. Il y a vous, votre savoir-faire, et au bout, il y a le client. Comme ça, on va pouvoir avoir un prix qui est cohérent et un produit qui est cohérent. Et si on fait la double marge, on va sortir à des prix complètement délirants et on n'a pas la légitimité, on n'a pas la force de presse, on n'a pas tout ça pour atteindre le client final qui pourrait payer ces produits-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est le plus basique possible. Donc, moi, mon obsession, c'est le crayon de papier, le fond de vestiaire ultra basique. Donc, c'est pas Holiday parce qu'il n'y a pas cette vision esthétique, cette vision de lifestyle très forte qu'a Franck Durand. Là, c'est vraiment du basique de chez basique. Donc, on fait des sweatshirts dans un molleton hyper épais japonais de 500 grammes de chez Toki. On fait des grosses chemises à carreaux en flanelle. On fait des vestes en coton. Enfin, vraiment, on fait le
basique
fond de vestiaire.
Chez basique.
Ouais. Ce serait une sorte de Carhartt. Mais fabriqué en France avec des toiles japonaises, italiennes, françaises. Et il n'y a pas de collection. C'est-à-dire qu'on achète 50 mètres de ce tissu, on fait tant de chemises dedans, elles sont disponibles et il n'y a pas de solde. Donc on a un site internet sur lequel on stocke tout et tu viens piocher dedans quand tu veux. Mais t'attends pas à ce que le prix descende parce que ce ne sera jamais le cas. Et si on fait cette chemise qu'on considère bonne, on considère qu'elle sera bonne dans 10 ans, on considère qu'elle aurait été bonne il y a 10 ans. Donc on fait on peut considérer que le design est tiède, parce qu'effectivement il l'est, parce que c'est un fond de vestiaire. C'est-à-dire que je vais pas te faire un pull à trois manches, je vais pas te faire un pull, un truc qu'on a envie maintenant. Tu vois, on porte tous les deux des Patagonia très moumoutées, qui sont fortes. Peut-être qu'on aura plus envie dans 2 ans, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on a envie de porter, parce que c'est dans l'air du temps, etc. Il y a 10 ans, j'aurais jamais porté ça, et peut-être que dans 10 ans, je porterai plus ça. Et c'est très bien, et je suis très à l'aise avec cette idée. Si tu veux, je suis pas là pour dire c'est le vêtement ultime, mais par contre avec Kidur, je suis là pour dire ce vêtement, je te garantis que dans 10 ans, il sera toujours bon, en tout cas en termes de fabrication. T'auras pas l'air d'un con dans la rue. Et voilà, donc je me force dans le design de Kidur d'être le plus basique, littéral possible. Et je leur ai dit dès le départ, hein, je leur ai dit, je vais pas inventer la poudre, je vais pas vous faire un Balenciaga, un Saint Laurent, un truc comme ça. Là, je vais vous faire vraiment une marque française, mais ras du sol. Donc, ce que j'espère, c'est
toi,
que
toi, c'était, tu, quand ils sont venus te chercher, ils avaient envie de ça ou tu leur as apporté cette vision-là?
Quand ils sont venus me chercher, ils m'ont dit, il y a un agent japonais qui veut qu'on développe des collections, fais-nous une collection. Et je leur ai dit non. J'ai dit, je veux pas faire ça, je suis pas la bonne, enfin, je peux vous le faire, il y a pas de problème, je pense que ça marchera bien, tout le monde sera content et tout ça, mais par contre, je pense qu'on va dire que le marché n'a plus envie de ça. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'une énième marque française qui est vendue au Japon, soi-disant française, parce que parfois il y a des marques françaises qui sont fabriquées n'importe où et qui sont vendues au Japon comme la marque française cool, parce qu'il y a c'est vrai que la France vend très bien au Japon, l'idée de la France vend très bien au Japon. J'avais pas envie de faire un truc comme ça a été fait depuis 15 ans, quoi. Des trucs bonjour, merci, ou tu vois, il y a des marques comme ça un peu étonnantes au Japon, avec plein de mots français mélangés. J'avais pas du tout envie de ça. J'avais envie d'apporter ma vision de ce que doit être la mode, j'espère, dans le futur. Ouais. C'est l'usine valorisée grâce à un DA ou quelqu'un qui a une vision pour le client final. Donc voilà, je suis hyper content de ce truc-là.
C'est récent, ça. Hein.
Ben, c'est pas sorti encore, on le sort fin octobre. Ouais. Donc là, on a fait toutes les photos avec Julien Hamon, et qui est un photographe que j'adore, qui fait aussi du reportage pour M Le Monde, qui fait, il fait plein de trucs dans la mode. Il est ultra discret et il est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'on a le même âge, on n'est pas pressé et on fait que des projets qui nous font triper.
Ouais.
Et on est prêt à manger des cailloux longtemps pour arriver à notre but ultime à 40 ans, quoi. Donc on se laisse entre 30 et 40.
Tu lances tout en octobre, hein, parce que le magazine sortait hier.
Ouais.
Parlons du magazine aussi. Pourquoi lancer un magazine en 2018? Pourquoi?
C'est une très bonne question.
Pourquoi pas un blog? Pourquoi pas un bouquin, etc.?
Alors déjà parce que j'aime les objets.
Ouais.
Aussi parce que j'ai envie de défendre une vision globale de ce qui est pour moi une bonne façon de vivre. Ouais. Une bonne façon de vivre, c'est de stocker des informations. Et j'adore le fait de stocker des informations. Alors tout le monde dit Internet stock, c'est vrai. Mais j'aime l'objet, j'aime le papier. J'ai une collectionnite aiguë au dernier degré.
Ouais.
Et du coup, j'avais envie avec Marc Boget de lancer ce truc-là, que les gens aient envie de le garder. Et surtout d'ancrer dans le temps justement ce message de voilà ce qu'on dit aujourd'hui. Ne prenez pas ça pour acquis pour toujours. On vous dira jamais. Alors on l'a dit dans le dernier, mais on l'a modéré, je crois. Il faut que je le relise. Arrêtez le slim, etc. On dit cette année, portez pas de slim parce que, et on essaie de l'étayer avec des arguments en disant voilà, aujourd'hui les gens ont envie de porter du large. Il y a un retour des années 90. Pourquoi il y a un retour des années 90? Parce que moi j'ai cette obsession de cycle de la mode de 20 ans. Voilà, donc là aujourd'hui on a le retour des années 90 parce qu'on est dans les années 2010. Et dans les années 90, c'était large. Pourquoi? Parce que c'était déjà un retour. Tu vois, j'aime bien essayer d'expliquer en termes historiques le désir des gens pour des vêtements et pour des volumes et des matières. Et aujourd'hui, on est dans ce retour des années 80-90. Et donc, les gens n'ont plus envie de porter de slim. C'est aussi bête que ça. Alors, quand Eddie Slimane est arrivé dans les années 80, fin 90, début 2000, c'était le retour du rock'n'roll des années 60-70 et de toute cette esthétique un peu dark, noire et une sorte d'esthétique blanche. Hein, on ne peut pas le renier ça. C'est du rock'n'roll de blanc. Et c'est pas du racisme, c'est juste un truc esthétique. Et là, ça fait 10 ans qu'on est dans une esthétique plutôt black, R&B, etc., qui est très très forte. Et c'est super. Sauf qu'une fois que cette esthétique, elle est sur les défilés, bah, elle est plus underground. Tu vois, et pour moi, c'est pour ça que c'est la fin du hip-hop, c'est la fin du R&B, c'est la fin de toute cette esthétique de rappeur, de la trap, etc. Et on va retourner à une esthétique rock'n'roll, très anglaise, très... très irlandaise, tout ça, toute cette esthétique un petit peu dure, ouais. Un peu dure dans l'esthétique. Hein, je parle, c'est plus, on va passer d'une esthétique de black R&B très East Coast américaine à finalement un truc retour du rock'n'roll, retour des Ramones, retour de tout ça. Je pense que le retour d'Eddie chez Céline le montre. Et voilà, c'est pas du tout. J'espère que ce sera pas pris pour un truc que tu couperas pas les mauvaises parties. Parce que c'est juste une analyse froide du truc. Et moi, je continuerai à écouter le Wu-Tang et je continuerai à aimer ça. Ouais. Et c'est juste que dans la rue, on va. Enfin, tu vois, tu vas à Limoges, à la fête de village. Je pense qu'il y a du R&B, etc. Ce qui aurait pas été le cas il y a 10 ans du tout. Et, y a une sorte, et c'est ce que dit d'ailleurs. Je crois que c'est Maître Gims dans une dernière chanson de Relsan. Je suis le black le plus aimé du Central Massif et il comprend pas pourquoi tous les petits blancs qui l'auraient jamais écouté il y a 10 ans sont fans de lui. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vachement bien parce que du coup, ça, j'espère que ça a éradiqué le racisme en France parce que c'est quelque chose qui ne va pas avec notre génération. Mm-hmm. Et toi, comme moi, on a grandi dans une génération où la couleur n'est jamais une question. Mm. Et j'espère que ça va s'ancrer dans la tête des gens. Mm. Mais c'est pas pour faire du là, bien sûr, bien pensant, bas de gamme, mais c'est juste que ça devrait juste plus être qu'une question comme la sexualité. Comme tout ça, on ne devrait pas même pas en parler en fait. Mm. Et juste que c'est pour ça que ça me permet d'analyser froidement et pas juger. Tu veux dire que les ASAP, les Young Thug, etc. Je pense qu'au bout d'un moment, on va en avoir marre. Et une fois qu'ils sont sur tous les défilés, ils sont plus underground, ils sont plus ghetto, ils sont plus tout ça. Parce qu'une fois que t'es DH et Vuitton, bah t'es plus underground en fait. C'est aussi bête que ça. Mm. Au même titre que le punk. Quand il est mort, c'est quand il était trop visible et quand il était chez Vivienne Westwood, chez Jean-Paul Gaultier, chez tout le monde dans les années 80, bah, le punk était mort et c'est pas grave, c'est juste la fin d'une esthétique, la fin d'un monde et c'est bien qu'on passe à autre chose.
Ouais. Tu bosses avec un sociologue, il me semble, c'est ce que tu disais dans l'interview avec Garance Doré, non, un sociologue
non,
de la mode.
C'est que j'aimerais.
C'est ce que t'aimerais faire.
Ouais,
okay,
c'est ce que
d'accord.
J'aimerais faire. D'ailleurs, appel à tous les auditeurs. Ouais. C'est que, si, je bosse avec quelqu'un qui a fait de la sociologie avant, etc.
D'accord.
Et on réfléchit beaucoup à tout ça et qui lit énormément. Et j'aimerais, en fait, avoir un sociologue universitaire pour écrire un livre ou pour théoriser les trucs que j'ai en tête et où me dire non, ça tient pas debout et me dire que ça tient pas debout. Mais j'aimerais beaucoup théoriser les cycles de la mode, théoriser tout ça et surtout l'écrire. Alors, moi, je suis très nul en écriture, en tout ce qui est études, etc. Ouais. Ça, c'est vraiment pas du tout mon truc.
S'il y a des gens qui nous écoutent et qui pourraient.
Ah, mais avec grand plaisir.
T'aider,
un universitaire
cool, ouais.
Passionné du vêtement qui voudrait théoriser tout ça, ce serait avec un grand plaisir parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire. Ça peut aider à prévoir l'avenir, enfin, en tout cas, le sentir venir. Moi, je parle beaucoup avec Basile Kadiri, donc le fondateur de Beige, avec qui je partage mon quotidien parce qu'on habite à côté, nos femmes sont amies et on passe notre quotidien ensemble. Et c'est quelqu'un qui réfléchit énormément et qui n'achète pas. Pour sa boutique, quand il fait les achats, il réfléchit toujours à si c'est intéressant. En termes social, il essaie de trouver toujours un sens à tout. Et donc, c'est quelqu'un avec qui je travaille énormément. Et Thomas Tourbier, qui travaille chez De Fursac, qui s'occupe de l'image là-bas. On est un trio un peu à beaucoup brainstormer sur tous ces sujets-là, surtout sur le menswear et tout ce qui tourne autour. Et donc voilà, c'est des choses qu'on a envie de théoriser, on a envie de travailler. Thomas fait un peu plus le taf parce qu'il va aux conférences, il va au musée, il va faire tout ça. Qui nous apporte des éléments de réponse que nous, avec Basile, on n'a pas toujours. Mais voilà, eux, c'est des grands lecteurs, ils m'apportent des vrais sujets. Pareil avec Nicolas de chez Husbands, Nicolas Gabart, qui a monté cette marque de costumes. Enfin, cette marque, c'est un faiseur, hein. Il fait en demi-mesure des costumes à Paris et il les fabrique à Naples. Et voilà, c'est des gens, en tout cas, qui font passer, mon équipe, entre guillemets, enfin mes potes, on fait passer d'abord la réflexion et le sens avant le produit et le pognon. C'est-à-dire que nous, le but, c'est de pas vendre, c'est de comprendre pourquoi les gens achètent. Donc c'est.
Mais c'est propre à notre génération, je crois, non?
Je crois aussi, ouais. Je pense que notre génération, elle réfléchit pas plus, mais différemment. On est une génération qui remet tout en question. C'est vrai qu'il y a eu la génération de nos grands-parents écoutaient la radio en disant c'est la vérité. Nos parents regardaient la télé en disant c'est la vérité. Peut-être que presque nous, on regardait Internet en croyant que c'était la vérité. Et les jeunes qui arrivent là, qui ont 20 ans, pour eux, il n'y a plus de vérité. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ces jeunes-là, à mon avis, enfin, d'après ce que je vois, qui sont lobotomisés, qui réfléchissent à rien et qui font très vite avec beaucoup d'informations et qui finalement les digèrent plus du tout. Et il y a toute une partie de cette génération-là qui réfléchit énormément et qui remet tout en cause, mais de la bonne façon, et surtout qui cherche des éléments de réponse et qui prennent jamais une information pour acquise. Donc ça, on le voit avec le petit journal, avec le quotidien, on le voit avec cette nouvelle façon de tout critiquer. Alors ça peut être nocif, ça peut être néfaste, mais pour moi, ça a un vrai bon sens, c'est de... Pardon. C'est de toujours réfléchir. Et ça, c'est vrai que cette génération remet tout en cause parce que les médias sont remis en cause en permanence, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, nos parents, ils se mettaient devant la télé, ils avaient une information et le lendemain, ils disaient « j'ai vu hier que ». Nous, maintenant, c'est « j'ai vu hier que », mais pourquoi il a dit ça ? Qui a dit ça ? D'où il vient ? Et pourquoi je écouterais ce mec-là ?
On va bientôt conclure, hein, parce qu'il faut que t'as l'anniversaire de la grand-mère de ta
surprise.
Ta femme.
Alors j'espère. Bah non, c'est
ah oui,
c'est
non,
pas,
mais c'est bon.
C'est pas en même temps, ça va.
Comment tu fais? Je reviens à ma question de tout à l'heure. C'est comment tu fais pour gérer tous ces projets d'un coup? Parce que ok, il y a le temps passé dessus, mais ça prend énormément de place dans ta tête.
Ouais, ouais. Alors ça, c'est une hyperactivité qui est une maladie de mes six enfants, de mes six frères. Enfin, on est cinq. Pardon, on est six, donc de mes cinq frères et sœurs. On a une hyperactivité qui a des qualités, ce qui permet de faire beaucoup de choses. J'ai la capacité de gérer plein de trucs en même temps, mais j'ai le défaut de jamais m'arrêter. Donc c'est quelque chose qui un jour, ma femme déteste quand je dis ça, mais je pense que c'est la vérité. Je pense que c'est ma santé qui va lâcher ou c'est quelque chose qui va lâcher. Donc ça, c'est mon problème très personnel, mais je n'arrête jamais. Que ce soit le matin, le soir, la journée. Là, je viens d'avoir un bébé qui a 5 mois et demi, donc ça m'apprend là depuis 5 mois à peut-être un peu tempérer. Mais c'est vrai que du lundi au dimanche, de 8h à 21h, je suis connecté à mon boulot. J'arrive pas à décompresser, j'arrive pas à dormir si je regarde pas un film pour m'endormir. Je me réveille les billes ouvertes tôt. Enfin, tu vois, j'ai cette hyperactivité qui fait que j'ai besoin de bouffer de l'information en permanence, d'apprendre en permanence. Et ça, c'est la musique classique qui me l'a appris. C'est que t'es nul tous les matins. Je pense que c'est comme le golf ou comme d'autres ou les maths. C'est-à-dire que c'est un muscle qu'il faut tout le temps entraîner. Et j'applique ça à mon métier de la mode aujourd'hui. C'est, je regarde tous les défilés, je regarde tous les livres anciens que je peux trouver, je regarde tous les blogs que je peux trouver, je regarde beaucoup Instagram parce que c'est quand même un outil extraordinaire de recherche d'images. Alors, c'est comme dit Ramdan, c'est le problème, c'est que c'est un peu comme un obèse sur un canapé qui mange du Nutella. C'est que tu te surnourris de quelque chose qui a déjà été vu par tout le monde et tu sais que c'est nocif, mais tu continues à le bouffer. Donc, il y a cette partie nocive. Mais en revanche, si tu le fais intelligemment, je pense que c'est quand même pas mal de voir ce que font les autres et les gens que tu respectes. Donc voilà, ma journée, comment elle se... Je peux te dire tout. Ouais. Je pars de chez moi quand la nounou arrive, c'est-à-dire à 9h. J'arrive en BMX ou en skate au lit des cafés. Je prends mon café avec mon beau-frère là et je débriefe de tout ce qui s'est passé la veille au soir au café et tout ça. Ensuite, j'arrive au bureau. Là, je fais les livres que j'ai parce que j'achète beaucoup de livres, donc je regarde les livres, je mets des post-it sur les
sites intéressants. Tu t'achètes ça sur quoi?
Alors là partout pour le coup, Amazon, eBay, que les livres qui sont rares, qui m'ont été recommandés, etc. J'adore les livres, c'est vraiment mes livres d'images. Attention,
tu lis pas?
Je lis peu. En revanche, je consomme beaucoup d'images. Donc les livres, ensuite les Tumblr. J'ai un agrégateur, on dit, agrégateur qui s'appelle Feedly, dans lequel je rentre plein de Tumblr que je trouve intéressants, et là je me bouffe.
Tu pourrais nous en donner quelques-uns pour par curiosité.
Je me rappelle les noms parce que entre le nom du, je peux te les envoyer. Et tu
ouais,
peux
bien
les
sûr,
ouais, parce que je regarderai demain. Mais c'est souvent des copains ou des gens que je respecte, etc. Bref, et du coup je bouffe ces images-là, j'en mets de côté, j'en diffuse quelques-unes sur Instagram comme inspiration, mais pas toutes, pas celles qui ont une importance dans mon boulot. Et ça, je stocke tout ça sur mon Drive, sur mon Google Drive. Ensuite, souvent, ce que je fais, c'est que je vais dans le showroom et je vais prendre une pièce ou deux et je vais la prendre en photo. Et je vais faire un pack shot. J'adore travailler mes pack shots, c'est-à-dire d'essayer de trouver des nouvelles idées, des nouveaux angles, des nouveaux trucs. J'adore travailler ça, essayer de faire un truc que personne fait dans mon milieu du vintage.
Donc, ce que t'appelles un pack shot pour les non initiés, c'est quoi?
C'est les photos en nature morte des vêtements. Ouais. Donc ça, là, en ce moment, je me suis inspiré d'un photographe qui s'appelle Ludweiler, je sais pas comment le dire, qui faisait, bon, évidemment, je le fais d'une façon moins poussée que lui, parce que lui, il fait au moyen format avec une pellicule qui coûte une fortune, etc. Mais c'est une façon d'éclairer avec une seule lumière en biais pour avoir une ombre marquée. Ce qui fait qu'en fait, avec cette ombre, tu peux marquer un volume et du coup, guider l'œil sur un détail. Donc, par exemple, si c'est un col qui m'intéresse sur un vêtement, je vais angler la lumière d'une façon pour que l'ombre marque le col et que l'œil de la personne va être attiré par le col. Voilà. Donc, j'essaye de, même si ça se voit pas, peut-être que ceux qui le voient, donc tant mieux. Et
ouais, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je parlais de ma typographie, je faisais hyper attention parce que tout est important, en fait. Et je suis content parce que, je suis content d'entendre ça de ta bouche, etc. Parce que on le voit bien, sur tous tes comptes Instagram, sur tout ce que tu fais, t'es un obsédé du détail.
Ouais.
Et tu prends le temps qu'il faut pour faire un truc.
Un défaut, mais c'est vrai que quand on propose un projet, je dis beaucoup non. Enfin, je dis souvent non parce que, je sais que ça va pas être bien. Tu vois, Kidur, c'est un projet d'extrémiste. Holiday, c'est un projet d'extrémiste. Mon showroom, c'est un projet d'extrémiste. Ma fripe, c'est un projet d'extrémiste. Et en fait, à chaque fois que je fais quelque chose, c'est pour ça que j'aime autant Ramdan parce qu'il est comme ça. J'aime autant Franck parce qu'il est comme ça. Si c'est pour faire un projet nul ou qui a déjà existé, prenez quelqu'un d'autre parce que moi, j'ai consacré ma vie à un projet global qui est de produire moins, produire mieux, consommer du vintage, consommer du déjà fait. Et voilà, je consacre ma vie à ce que je considère comme étant bien fait. Donc quand je viens un pack shot à faire ou un shoot, bah, j'appelle Julien Hamon, j'appelle des photographes que j'admire, des stylistes que j'admire, et j'essaie de consacrer ma vie. J'espère que j'aurai pas de nécessité financière vitale qui me forceront à faire des projets que je veux pas. Mais voilà, je regrette quand quelqu'un vient me voir et que je dois lui dire je suis désolé, j'ai pas le temps. Parfois c'est pas que j'ai pas le temps, c'est parce que je considère que son projet n'a pas lieu d'être. Et là je travaille avec d'autres marques que j'admire comme Chevignon, que je trouve super cool dans l'histoire. Donc en fait le projet peut être cool dans différents domaines. Ça peut être son histoire, ça peut être son business, ça peut être sa vision esthétique. Mais s'il y a pas un truc qui me parle, je le fais pas. Même si le pognon est là, pour l'instant, j'ai la chance de m'en foutre.
Juste pour revenir sur ta journée, le déroulement, tu parlais de pack shot.
Ouais.
Et ensuite, qu'est-ce que tu fais?
Alors, le pack shot, bah, déjà, je le shoot, après, je le retouche. J'ai le ciel de retouche. Donc, ça, j'ai appris avec Isaac, le chef du café, qui a fait les beaux-arts d'abord en photo, qui a pu m'apprendre tout ça. Donc, ça, je le retouche. Je le mets sur mon drive. Voilà, donc, ça, c'est fait. Et ensuite, bah, là, je commence à dérouler la journée. Donc, en général, j'ai des rendez-vous prévus bien en avance. J'essaie de les prendre à partir de 11h ou midi. Donc je fais des déjeuners, beaucoup de déjeuners avec plein de designers, de marques, de trucs. Tout ça, je communique évidemment pas dessus sur Instagram, donc personne le voit et le sait, mais les professionnels du métier me connaissent comme étant très discret sur ces trucs-là. C'est-à-dire qu'à la fois je parle beaucoup et je fais beaucoup de bruit, mais en même temps quand il faut se taire, je sais le faire, et quand il faut garder des informations, je sais le faire aussi. Donc je fais mes rendez-vous que j'ai prévus en général une semaine à 15 jours à l'avance. C'est comme ça que je remplis mes semaines. L'an est vendredi, la semaine qui arrive est pleine. Et si on me demande un rendez-vous, bah ça sera sûrement celle d'après. Évidemment, j'ai des cycles dans l'année, hein, des gros pics au moment des Fashion Week. Et c'est pas pendant la Fashion Week, c'est souvent avant et après. Donc avant pour de l'inspiration et après pour les interviews, etc. Et donc voilà, après je déroule toute ma journée. Donc ça peut être un rendez-vous au showroom pour un designer qui vient me louer ou m'acheter des vêtements. Ça peut être du consulting avec Asphalt par exemple, ou avec Chevignon, ou avec différentes marques. Et après ça peut être évidemment du travail pour la collection, c'est-à-dire que là, les gens du studio, Emmanuel, Louise ou Marine, me disent voilà, là il faut que tu aies 2 heures parce qu'il faut choisir le tissu, il faut choisir le zip, il y a tel proto qui est revenu, il faut changer le volume, on a un fitting produit, on a un fitting prod ou un fitting collection. Enfin tu vois, après tout le déroulé d'une marque, hein, ça que tout le monde, tous les gens qui nous écoutent qui travaillent là-dedans connaissent. Et après pour qu'il dure, j'ai la chance d'être décentré du cycle de la mode, c'est-à-dire que on fait les produits quand on les fait, ils sortent quand ils sortent, et donc j'ai cette chance de dire bah attends, là j'ai pas le temps, première vision je le fais, mais finalement je préférais voir les agentes qui sont à première vision, qui sont à Paris, pour choisir le tissu après, tu vois. On a cette liberté qui est exceptionnelle avec Kidur et que je chéris. Et c'est vrai que je pourrais pas faire ce que je fais pour Holiday pour une autre marque. J'aurais pas le temps de faire DA pour deux marques à full time, c'est impossible. Mais voilà, j'ai mon vrai cœur de DA produit, parce que je me considère comme un directeur artistique menswear. Enfin, c'est ça qui synthétise tout ce que je fais. C'est de la direction artistique sur le vêtement masculin, que ce soit dans l'image ou dans le produit. Mais par contre, je suis pas un designer parce que je ne crée pas le vêtement. Et la DA produit, je la fais pour Holiday. La DA globale, je la fais pour Kidur, mais parce que c'est un projet qui me permet de le faire. Mais je pourrais pas être DA d'une marque globale et plus d'Holiday, ce serait impossible. Et ensuite, le consulting, bah, c'est ponctuel. Donc, je vais voir William chez Asphalt, je vais voir Johan chez Chevignon, et ils me disent, voilà, qu'est-ce que tu penses de cette doudoune? Qu'est-ce que tu penses de ce volume? Qu'est-ce que tu penses de cette matière? Et ce qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'il est périssable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que je synthétise bien ma génération, mon temps, etc. Mais je vais devenir ringard comme tous les mecs qui étaient cool quand ils avaient mon âge. Et j'ai complètement accepté cette idée-là. C'est-à-dire que la hype ou le truc d'un DA, elle s'arrête et il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à devenir ringard.
Et quand tu l'anticipes,
si ringard, c'est que t'as proposé quelque chose.
Ouais.
Et que tu défends une idée.
Ouais.
Donc, dans mon métier, attention, hein, direction artistique de Franck Durand, par exemple, lui, il ne sera jamais ringard parce que sa vision est tellement intemporelle que ça ne lui arrivera pas. Mais quand tu proposes des choses fortes, quand tu proposes une défense de quelque chose, et donc je pense que petit à petit, je vais me spécialiser dans le développement du produit, parce que ça, par contre, c'est intemporel. Un bon produit sera toujours bon. Et après, je serais ravi de voir des DA arriver avec des directions artistiques que je trouve dégueulasse personnellement, mais qui se vendent bien, qui correspondent à leur époque, qui correspondent au désir des clients, et moi d'apporter juste mon savoir-faire sur le produit. Donc petit à petit, je pense que je vais me spécialiser là-dedans, et aider les gens à fabriquer des beaux produits. Donc là, j'ouvre ma fripe le mois prochain, enfin en novembre, où là, je vais vendre que de la marchandise américaine, je vais tout importer des États-Unis, et défendre ce fonds de vestiaire américain classique du 501, du t-shirt universitaire, de la veste militaire, du perfecto, du bomber, tout ça, quoi.
Ok, dernière question, comme ça, en boucle. Qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
Qui aimerait entendre?
Ouais, ouais.
Qui je te conseille d'inviter? Bah déjà tous ceux que j'ai cités dans l'interview.
Ça fait une sacrée liste, ouais.
Ça, mais c'est bien, toi, il faut que tu en as un par semaine, c'est ça. Donc ça fait.
C'est, tu pourras en faire 3 par semaine, c'est bien.
Ouais. Mais du coup, tous ceux que j'ai cités, et c'est, le thème, c'est vraiment entreprendre dans la mode. Hein. Mmh. C'est ça, c'est des gens qui entreprennent et dans la mode. Donc, vraiment tout ce que j'ai cité, parce que j'ai envie de tous les reciter là. Donc, tu vois, Basile, Franck, Nicolas Gabart, Super Six, ou tous mes potes. Mais sinon, que j'ai pas cité, peut-être Pierre Maéo dans, chez Officine Générale.
Ouais.
Qui est tout seul dans, dans sa marque. Mmh. Que j'adore. Mmh. Qui adore le produit, qui trouve des solutions pour avoir un produit accessible alors qu'il est super bien fabriqué dans des belles matières. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, Pierre, et que, qui apporte un vrai vestiaire pour des vrais mecs. Mmh. Et tout le monde peut trouver une pièce chez Officine Générale. Les matières sont belles, les couleurs sont sobres, mmh. les coupes sont bien pensées, les modèles sont pas dingues, dingues dans le sens délirant, tu vois. Enfin, voilà. Donc voilà, Pierre
cool. Maéo. Très bien. Eh ben, on finit là-dessus. Merci beaucoup et good luck pour la suite.
Et ben, à toi aussi. Ciao. Merci beaucoup. Ciao.
Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être parce que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire sur iTunes et SoundCloud. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes depuis votre ordinateur ou Apple Podcasts depuis votre iPhone et cherchez « Entreprendre dans la mode » dans votre barre de recherche. Allez dans la section « Notes et avis » et laissez un commentaire. Vous pouvez aussi choisir le nombre d'étoiles, 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.